Cinquième et dernier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Nous sommes vendredi 20 janvier 2023. L'émission Club de la Presse, la mise en onde est assurée par Thomas Datevi. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne avec nos différentes plateformes numériques. Je suis Pascal Lousseau au micro. L'émission Club de la Presse, c'est aussi alors sur nos différentes plateformes numériques, je le disais tout à l'heure, où la mise en ligne est assurée par Jérôme Dakouta et aussi avec nos radios partenaires, à savoir Radio Lumière à Anero, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon dans le Grand Nord du pays. Club de la Presse, c'est avec alors des débats, des décryptages, des analyses aussi alors de l'actualité de notre pays et d'ailleurs aussi, et c'est avec des invités en studio avec moi, des invités qui sont déjà en place. Je commence d'abord par Francisco Napokoura, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM, la nouvelle génération.
J'espère que vous allez bien.
Oui, très bien. Une semaine bien riche.
Une semaine bien riche.
Voilà. Voilà. Avec un peu de gaieté. Donc le week-end aussi ira bien.
D'accord. Et l'autre confrère qui est aussi avec nous aujourd'hui, c'est Firmé Tekouagbo. Firmé, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
Pour le compte surtout alors de cette année, tu retrouves pour une première fois encore.
Ouais, bien évidemment.
Radio, les micros de Radio Canal FM.
Et bien évidemment, c'est un honneur. C'est ma première fois de mettre un pied dans ce studio. Et j'en suis heureux et honoré. Je voudrais en profiter pour vous souhaiter mes voeux les meilleurs à toute la direction et bonne année aussi aux fidèles, aux chaleureux fidèles de Canal FM, surtout les plus critiques, ouais, parce que ce sont eux qui nous aident à améliorer.
Tout à fait.
Juste dire que nous n'avons pas la parole d'évangile, c'est-à-dire on peut se tromper, mais on ne vient pas avec l'esprit ou l'intention de tromper. Donc, quoi que nous disions, nous vous demandons humblement de les accepter. S'il y a des reproches à faire, faites-les. En toute humilité et dans un respect absolu.
Et c'est un signe alors d'humilité tel que vous l'avez fait tout à l'heure. Alors, nous commençons cette émission avec son premier sujet. Le premier sujet, on sait que depuis hier, il y a une conférence qui est ouverte alors dans notre pays. Et cette conférence, c'est la conférence des parlementaires. Alors, et c'est sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Alors, Francis, on prend les parlementaires qu'on veut maintenant impliquer dans la lutte alors contre le terrorisme. Je pense quand même que c'est une lutte à nous tous et que les parlementaires devaient jouer aussi leur rôle.
Oui, la réflexion doit toujours continuer sur les fléaux, les différents fléaux dont le terrorisme qui aujourd'hui est, disons, la première... le premier grand danger encore dans le monde, le terrorisme, surtout et en Afrique, et qui nous retarde beaucoup. Donc c'est tout à fait normal que des gens se regroupent, prennent des initiatives pour échanger et voir, pour faire des propositions pour pouvoir juguler le mal. Parce qu'il y a des différentes tours pour lutter contre le terrorisme. Il y a des gens qui vont avec la force, il y a des gens qui vont avec des discussions, des négociations, d'autres, parce que quand vous prenez l'exemple de la Mauritanie, on ne dirait pas que c'est un pays qui est frontalier au Mali et voilà, et beaucoup d'autres pays où se passe le terrorisme, mais eux, ils arrivent quand même à venir à bout. Donc toutes ces réflexions, on doit les regrouper, mais il ne faut pas toujours demeurer dans la bureaucratie, dans les salles climatisées pour dire qu'on est en train de faire l'agriculture, on est en train de lutter contre le terrorisme. Il faut véritablement que les gens sortent de bonnes idées et qu'ils soient applicables. sur le terrain.
Firmin, c'est vrai que ce qui est particulier hein, à cette conférence, c'est qu'on met l'accent plus alors sur l'engagement des jeunes, parce qu'on comprend tout simplement que des jeunes sont en quelque sorte la cible alors de ces terroristes, surtout que aujourd'hui avec les problèmes alors d'emploi et tout, on comprend tout simplement que c'est un terrain fertile alors pour ces jeunes quand on leur fait même des propositions.
Oui, je pense que c'est juste un aspect du problème qu'on essaie d'aborder, alors qu'il y a plusieurs aspects. Moi, je voudrais faire observer trois petites choses. La première chose, on sait que le terrorisme, c'est une guerre asymétrique.
Tout à fait.
Nul ne connaît l'ennemi. Peut-être l'ennemi peut opérer la nuit, mais le lendemain se retrouver parmi nous. Donc, à ce niveau, on a besoin de l'engagement de tous. On a besoin de former plusieurs, toutes les couches, aussi politiques que militaires, que civiles, pour que tout le monde ait l'information et que au moment où il y a une information qui est relative à ce fléau parvient à quiconque, qu'on puisse facilement dénoncer et qu'on puisse alerter les plus hautes ou les autorités adéquates pour que le mal soit vaincu ou soit combattu. Maintenant, la deuxième chose, c'est ce que vous avez souligné, c'est le chômage. La vulnérabilité, le terrorisme surfe beaucoup sur la vulnérabilité parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens pour pouvoir combattre au niveau je parle des terroristes parce que il y a cet exemple que je donne souvent, le terrorisme ou l'État islamique de la Syrie s'est développé avec beaucoup de recrutement. L'État islamique qui avait pris presque une partie, presque la moitié du territoire syrien, avait lancé des recrutements en 2014-2015, non, même avant, après 2010, lancé un certain nombre de recrutements où plusieurs Français se sont fait recruter et allaient régulièrement en Syrie et revenaient. Et c'est la plupart qui ont eu à perpétrer des attaques que nous avons connues en France il y a de cela bientôt 10 ans. Donc ça c'est un élément. Donc à ce niveau, le gouvernement ou les gouvernements du monde devraient travailler sur cet aspect-là aussi. Maintenant, l'autre aspect aussi qui n'est pas négligé, c'est la formation de nos militaires et aussi d'avoir une armée disciplinée. Ça, c'est tellement important. Il y a le terrorisme qui sévit beaucoup plus au Burkina Faso ou au Mali. C'est parce qu'il y a un problème lié à l'armée. Blaise Compaoré est parti. Depuis qu'il est parti, on a dissous aussi le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, qui était en quelque sorte un corps d'élite qui avait presque tous les renseignements, qui combattait le terrorisme, qui savait aussi négocier avec les terroristes. Donc, depuis qu'il est parti, donc ce régime est dissous et aussi l'armée est tombée en lambeau. Donc, on n'a plus véritablement d'armée au Burkina Faso. C'est la même chose aussi au niveau des femmes du Mali, où on n'a plus d'armée. Je pense que ceux-là qui vont régulièrement au Mali vont vous dire qu'ils n'ont même pas un état-major bien sécurisé. Il arrive des moments où, quand on coupe l'électricité, on n'a même pas de groupe. Donc, c'est des situations trop bien fertiles pour les terroristes. Ça, c'est des choses importantes. Et aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir une armée bien disciplinée. Ça, c'est tellement important. C'est un élément sur lequel il faut beaucoup travailler. Et l'autre chose aussi, c'est les renseignements. Parce que c'est avec les renseignements qu'on combat les terroristes. Parce que, moi, j'ai l'habitude de le dire, peut-être les chefs d'État du monde peuvent se fâcher, tous les chefs d'État du monde sont des aveugles. C'est-à-dire, ils sont des aveugles. Parce que on ne dirige qu'avec les renseignements. Quand vous n'avez pas les meilleurs renseignements, vous ne pouvez pas diriger. Ce sont les renseignements performants qui vous permettent d'identifier là où sont les terroristes, qui est terroriste. C'est ça, c'est avec ça que les Français ont essayé de combattre ou de déjouer un certain nombre d'attaques depuis 2013. Et à la fin de chaque année, on essaie de faire le bilan au niveau des renseignements pour dire, pendant toute cette année, nous avons eu à déjouer 100 attaques terroristes. Voilà, ça c'est les renseignements, c'est un élément important. Et à ce niveau,
moi je demande... éléments bien précis.
Il faut beaucoup investir dans les renseignements. Il faut beaucoup investir dans les formations. Et parce que sans cela, vous ne pourrez pas. Sinon, vous êtes aveugle. Et peut-être au niveau du Togo, on essaie de jouer peut-être plusieurs attaques dont on ne nous fait pas parvenir l'information. C'est une très bonne chose aussi, parce que le terrorisme se nourrit de la publicité qui est faite dans les médias. On parle du terrorisme en réalité quand on médiatise, quand le terrorisme voit que l'information circule sur les réseaux sociaux, sur les médias, alors il est content, il se dit « Ah, j'ai fait un bon boulot ». Donc quand on ne communique pas beaucoup trop sur les attaques terroristes ou les attaques qui ont été déjouées, je pense que c'est aussi une très bonne chose. Maintenant, l'autre gros aspect que je vais évoquer pour clore c'est cette partie, moi je dis, on a le terrorisme parce que les Occidentaux l'ont voulu. Le jour où les Occidentaux décideront de la fin du terrorisme, il n'y aura plus de terrorisme en Afrique. Moi je dis, je répète, le terrorisme existe aujourd'hui parce que les Occidentaux l'ont voulu. Vous voyez tous les milliards qu'on dépense au niveau de la guerre d'Ukraine. C'est plus de, les États-Unis ont déjà eu mobilisé plus de 100 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine dans cette guerre russo-ukrainienne. Si on mobilisait ne serait-ce que la moitié de ces sous-là en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, jusqu'au Tchad, je pense qu'on aurait déjà mis fin au terrorisme. Les Occidentaux se servent du terrorisme pour déstabiliser un peu l'Afrique. Entre temps, c'était la démocratie. Donc, comme on a fini avec la démocratie, maintenant il faut envoyer un autre fléau. Et donc, ça permet aux Occidentaux d'avoir un continent beaucoup plus déstabilisé. Autant vous êtes déstabilisé, vous chercherez des moyens pour assurer votre sécurité avant de penser à votre développement. Et je pense qu'à ce niveau, ils le font trop bien.
Si vous voulez, j'ajoute. Oui. Vous dites que les Occidentaux, mais le jour nos chefs d'État africains aussi et togolais décideront qu'il n'y aura plus de terrorisme, il ne va plus en avoir. Vous voyez, la dernière fois...
Mais est-ce que ça veut dire que pour le moment, ils n'ont pas encore décidé?
La dernière fois, j'ai eu froid au dos en écoutant le ministre Yark sur ses propos par rapport au ravitaillement que certaines populations feraient
carburant
et autres vers les djihadistes. Mais quand vous laissez des populations aussi pauvres, d'accord ? Mais les gens, ils sont morts depuis. C'est-à-dire que on les a déshumanisés. Regardez, quand on passe des vidéos, vous voyez les conditions dans lesquelles les gens vont chercher de l'eau dans les savanes, dans nos villages. Mais je dis ici que il y a un chanteur togolais qui avait chanté Midjoule Lavagnon. Mais c'est-à-dire que c'est à travers les vedettes que beaucoup d'informations passent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ne se retrouvent plus. Si le cas est vrai, c'est qu'à un moment donné, les gens ne se retrouvent. Regardez tous ces projets qu'on nous a toujours cités, qu'on investit dans la savane, des ONG ici, même depuis que cette histoire, 2018, que cette histoire a commencé, même le gouvernement togolais, quand vous entendez, oui, il y a des rapports qui disent qu'on investit tel dans les savanes, programme d'urgence, tout, mais visiblement on ne voit rien. L'argent la passe où? Si l'argent est réellement investi dans les choses et dans l'humain, d'accord, on ne va pas entendre que il y a une partie du Togo qui tourne le dos, n'est-ce pas, au pays et qui préfère le djihadisme. Et ce n'est pas normal. Et c'est pratiquement sur toutes les terrains du territoire. On veut faire un projet, les projets n'aboutissent jamais. Bien sûr que l'Occident, ça parle de responsabilité. Mais nous aussi, ici à l'intérieur, que ce soit les gouvernants, que ce soit ceux qui sont appelés à exécuter les projets, les gens détournent l'argent des projets. Ce n'est pas que l'argent n'est pas débloqué. L'argent est débloqué, mais les gens détournent. Et ça devient une impunité. On laisse et ça continue. Mais voilà où on en arrive. Ce n'est pas seulement d'apparence seule, les savanes seules qui sont pauvres. C'est pratiquement tout le Togo. Et là, quand les populations ne se retrouvent plus en leur gouvernant, et je le dis, c'est déjà chanté depuis, quand vous êtes dans la circulation, vous voyez sur les véhicules, ah, Dieu seul sauve. Je dis, mais c'est le désespoir. Et c'est ça. Donc le jour où les gouvernants, la gouvernance va sortir de ces rhétoriques que 45% du budget est consacré au social. Et c'est plus de la moitié est consacré au social. Mais visiblement, on ne voit rien. On est dans Machiavel. Voilà.
Et jamais Poli, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à mes chers confrères,
bonjour
aux autres invités.
Et nous sommes en train de discuter alors de cette conférence sur le terrorisme qui se passe ou qui se déroule actuellement même d'ailleurs dans notre pays, où ce sont les parlementaires même d'ailleurs qui se réunissent, et le point d'orgue c'est l'engagement surtout de la jeunesse. Et dans cet engagement de la jeunesse, je pense tout simplement que, ou bien, est-ce que vous pensez aussi que déjà, les jeunes sont aujourd'hui la cible sur laquelle on doit se baser pour cette lutte alors contre le terrorisme et l'extrémisme violent.
Oui, tout à fait. La jeunesse, l'avenir et le futur de tous les pays. Et la jeunesse africaine particulièrement, c'est le plus gros problème de tous les dirigeants. Nous avons plus de 60% de jeunes en Afrique, beaucoup plus dans certains pays. Et ces jeunes ont besoin de s'épanouir, ces jeunes ont besoin de travailler, de gagner leur vie, de se marier, de fonder leur foyer. Aujourd'hui, l'avenir n'est pas aussi éclairé que ça. Et donc, le chômage ou le manque de travail pour les jeunes est une réalité. Plusieurs sont formés, ils ne trouvent pas à faire. Et ça, c'est un combat perpétuel. Mais l'extrémisme violent et le terrorisme vient donc attirer beaucoup plus l'attention des dirigeants sur cette situation des jeunes-là, parce que justement, les terroristes sont recrutés au sein de cette frange-là, ce ne sont pas les vieillards qui vont attaquer nos pays, ce sont les jeunes, et les jeunes sont facilement enrôlés, parce que justement, c'est vrai, il y a eu un côté religieux en tentant l'endoctrinement, mais après aujourd'hui, on s'accorde à dire généralement, c'est parce que quand quelqu'un ne fait rien, c'est plus facile pour lui de faire autre chose, même si cette chose est mauvaise, et même si très facilement, avec quelques sous, avec quelques promesses, on peut l'amener à faire quelque chose contre sa société. Donc d'où l'importance d'axer ce genre de débat sur les jeunes, et les 500 participants venus de 25 pays du monde qui sont au Togo font bien de mettre un accent dessus. Et les jeunes aujourd'hui, au-delà donc de ce que je disais, et par rapport donc au terrorisme, il faut faire l'essentiel. Maintenant, quand on voit par exemple le programme d'urgence dans les savanes, enfin, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui devait être fait dans les savanes, sauf qu'avec la situation actuelle, il faut concentrer les efforts sur très peu d'années. Donc ce qu'on pouvait prendre 10 ans ou 15 ans à échelonné pour faire, on se dit qu'il faut aller vite parce que c'est la zone la plus exposée, parce que justement ce phénomène ne vient pas, n'est pas né au Togo, il vient d'autres pays avec qui nous partageons des frontières. Il y a quelques années, on entendait parler de façon lointaine au Nigeria, un peu au Mali, mais aujourd'hui, le Bénin, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire qui étaient épargnés sont donc concernés. Il faut concentrer donc toutes les énergies sur cette jeunesse, l'impliquer à la lutte à divers niveaux. Vous avez vu un peu au Burkina carrément avec le recrutement des volontaires. Ce sont des jeunes eux-mêmes qui se sont enrôlés malheureusement. Hier, il y a 18 parmi eux qui ont été tués au Burkina. Mais c'est dire qu'on a besoin déjà de l'engagement des jeunes pour défendre les pays, que ce soit dans l'armée régulière, que ce soit au niveau des volontaires. Mais on a besoin aussi de détourner les jeunes donc de cette tentation-là, en leur donnant de l'espoir, en leur donnant, pour ceux qui sont déjà prêts, du travail à faire. Et donc aujourd'hui, c'est un peu ça. Et j'espère qu'on ne va pas s'arrêter aux résolutions, et qu'après tout ce qui sera défini, et qu'on connaît plus ou moins déjà, parce que chaque pays a sa stratégie de lutte. Aujourd'hui, il faut une concertation, il faut que les pays travaillent en synergie, en solidarité, parce que les efforts individuels ne sont pas très profitables et ne sont pas très efficaces dans ce genre de lutte. Et donc, espérons que l'OMÉ va servir à booster un peu ce qui est en train d'être fait de diverses manières, et que là on a l'arrivée des pays arabes, d'un certain nombre de pays, et que vraiment les moyens seront effectivement mobilisés. On ne va pas compter seulement sur les Européens et les Arabes, mais en interne aussi, que toutes les bonnes volontés, que la solidarité s'exprime en faveur de ces jeunes-là, pour les protéger et les détourner de la tentation ou les mobiliser pour combattre efficacement ce fléau.
Merci beaucoup, Germain. Oui, Femel.
Oui, je voudrais rebondir un peu sur ce que un des aspects développés par Germain, quand il parlait par exemple du Burkina Faso, où on, ces derniers temps, on fait enrôler les jeunes. Vous savez, c'est bien d'enrôler les jeunes, mais moi, je souhaiterais beaucoup plus qu'ils soient vraiment recrutés et qu'ils soient vraiment formés. Moi, je vais être peut-être très dur dans mes propos. Ce qui se passe avec Ibrahim Traoré, c'est, moi, je pense que c'est une bêtise.
Comment ça?
C'est une bêtise. C'est-à-dire, vous enrôlez les jeunes, vous les, en moins d'une semaine, vous les formez, vous dites vous les formez, et après, vous leur remettez des armes, vous leur demandez d'aller combattre. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Je pense que c'est une situation pour détruire la jeunesse burkinabé. Je pense que si vous vous interrogez George Bush, en 2000, qui avait attaqué l'Irak en 2003, et par rapport à l'enrôlement des jeunes dans des situations pareilles, il vous dira que peut-être qu'il a eu à commettre des erreurs. C'est une erreur qu'ils ne pourraient pas répéter. Parce que quand ils s'étaient agi d'aller attaquer l'Irak et quand ils avaient falsifié des documents pour montrer à la presse, au Congrès, qu'il y avait l'Irak détenait des armes de destruction massive, beaucoup d'Américains avaient cru. Et ils avaient lancé l'appel et beaucoup, ils avaient recruté beaucoup de volontaires qui se sont fait former en quelques jours. La plupart de ceux-là qui ont été envoyés, de ces jeunes-là formés, qui ont été envoyés en Irak, la plupart sont revenus dans les cercueils. Vous vous imaginez un peu, parce que le métier des hommes, ce n'est pas un jeu. Où on a besoin de l'engagement des jeunes, et Ibrahim Traoré fou dans sa tête, parce qu'il est, il est jeune, il veut, il a l'intention de bien faire, et dans une certaine émotion, il dit venez, on va travailler, on va combattre le terrorisme, et fait enrôler des jeunes, et en 7 jours, on dit, ces jeunes-là maîtrisent le terrorisme, et puis on leur dit, allez sur le terrain, et ils se font tuer gratuitement. C'est de la plus bêtise. Je pense qu'au Togo, on ne fera jamais cette erreur-là. Nous, on fait le recrutement normal, on vous recrute, on vous forme bien pendant le temps qui est dû, et après, on peut vous envoyer sur le terrain. C'est d'une bêtise, parce que ce qui se passe au Burkina Faso, moi, je n'ai jamais donné mon adhésion. C'est de la pure bêtise, quoi, parce que ça, c'est pour détruire la vie de la jeunesse.
Merci beaucoup, Firmin. Francisco,
je crois que le problème est assez complexe, et on ne va pas accuser le Burkina d'opter pour cette solution, parce que c'est difficile à gérer cette situation, et puis le jeune capitaine n'est pas le premier à recruter les volontaires. Hein.
Tout à fait.
Kabouré avait commencé déjà, même si ce n'est pas très efficace. Mais je ne pense pas que ce sont ces jeunes qui sont à l'avant-garde de la lutte. Ce n'est pas l'armée. Ils font des recrutements normaux, mais ils demandent des volontaires. Et c'est vrai que quand on assiste à ces drames, dont celui dont je parlais, on se dit, mais qu'est-ce que les jeunes cherchent là-bas? Peut-être qu'ils peuvent être en arrière-plan, donner beaucoup plus en termes d'information et de surveillance que de les envoyer au front. Je ne suis pas au Burkina, mais je ne suis pas persuadé qu'ils sont au front à la place des militaires, vu que d'abord, il le disait, l'ennemi est d'ailleurs invisible. On ne le voit pas pour aller le chercher, donc il vient, il frappe. Mais c'est une démarche critiquable, sauf que en la matière, il n'y a pas de solution toute faite. Et les Burkinabés, ils essaient. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais on sent quand même un certain engagement ici. Et on a plutôt opté pour recruter dans l'armée. Et on a été quand même surpris au dernier recrutement qu'il y avait assez de jeunes qui sont allés, qui savent quand même que les conditions sont difficiles maintenant. C'est pas comme l'armée d'avant, mais qui sont allés. C'est comme des volontaires aussi, mais qui sont enrôlés et qui vont combattre. Donc je dis, on peut critiquer la démarche des Burkinabés, mais en même temps, il n'y a pas de solution. Il n'y a aucun pays qui a une solution face à ce problème, et chaque pays essaie. Bon, on verra, peut-être si c'est l'hécatombe totale, ils vont arrêter cette initiative.
Francisco,
oui, par rapport à cette lutte contre le terrorisme, il y a la Côte d'Ivoire qui a tenté quelque chose. Hein, et c'était la proposition d'un chercheur, hein, Lassina Diarra, au nord, lorsqu'ils ont remarqué comment le djihadisme a commencé par recruter les gens. Et c'est aussi, c'est la pauvreté. Mais il a fait des propositions au gouvernement. Et le gouvernement a accepté. Et ils ont mis les moyens qu'il fallait pour occuper, n'est-ce pas, et les jeunes, l'employabilité, l'auto-emploi et autres. Et ça a permis d'atténuer le mal et d'anticiper. Est-ce que vous voyez? Donc, partout où il y a ce fléau, la population est obligée d'accepter hein, l'ennemi ou d'accepter le drame, le danger, c'est parce qu'à un moment donné, elle n'a plus d'espoir aux dirigeants.
Alors, actuellement, on sait que cette conférence se déroule dans notre pays, qu'est-ce qu'on peut attendre alors de cette conférence, concrètement, en matière de résolution?
Les conférences, on les fait souvent, mais les résolutions, ça tombe où? À qui on l'adresse? Est-ce que ceux à qui on adresse les résolutions, est-ce qu'ils acceptent? Est-ce que vous voyez? Donc, parfois, ça se limite aux résolutions, recommandations, recherches de financement, et puis c'est fini, quoi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand ils vont même transmettre au gouvernement ou au chef d'État, est-ce que les gens lisent? D'accord? C'est un problème, puisqu'on a fait beaucoup de conférences. On ne voit pas les effets de ces conférences. Donc, c'est ça.
Fumet, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de la synergie, surtout quand on prend la sous-région, hein, la sous-région tout entière, est-ce qu'on n'a pas besoin de cette synergie pour mieux lutter contre ce phénomène?
Oui, je vous ai dit, parce que vous internationalisez la question, parce que la question est tout d'abord internationale. On a besoin de la contribution de tous. Ça, c'est une évidence. Mais je vais revenir à ce que j'ai dit... lorsque je prends la parole au début, que toute la CDAO arrive à tenir des réunions avec la communauté internationale pour demander aux occidentaux ce qu'ils veulent. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? Aidez-nous à combattre le terrorisme. S'il n'y a pas de ces négociations-là, il n'y aura jamais la fin du terrorisme.
Mais il y a des forces des Nations Unies qui sont quand même dans ces pays comme le Mali.
Oui, bien sûr. Vous savez, les Nations Unies se déplacent parce qu'il y a des intérêts. Les Nations Unies ne se sont jamais déplacées.
Prenez la RDC.
Oui, regardez, par exemple, les Nations Unies ne se sont jamais déplacées sans intérêt. Les Nations Unies sont au Mali parce qu'il y a des intérêts que les Africains qui vont combattre là ne mettent nullement. Et quand les Nations Unies vous disent il y a une nation des Nations Unies qui vient faire tampon, qui vient dans un pays où MINUSCA, c'est parce qu'il y a des intérêts dans ce pays-là. Les Occidentaux se déplacent parce qu'il y a des intérêts. Ce n'est une affaire d'intérêt, ce n'est une affaire de gros sous, c'est une affaire de richesse du sous-sol. Ce n'est pas pour la beauté des Africains parce que les Africains sont trop beaux. Nous, on n'en a rien à foutre. Les Nations Unies se déplacent parce qu'il y a des intérêts. Le jour, si le Mali était suffisamment pauvre, vous ne verriez jamais aucune. Force onusienne. La SCA, c'est ça, la République centrafricaine.
SCA, oui.
SCA. Mais regardez, c'est un pays qui a sous-sol riche. La RDC. RDC, 65% des richesses mondiales détenues par ce pays. Les Nations Unies sont là pour ces richesses-là. Donc, quand on dit les Nations Unies sont dans ces pays et on va mettre fin au terrorisme, c'est faux. Je dis c'est faux. Je répète, c'est faux, ça n'arrivera jamais. De la meilleure des choses aujourd'hui, moi je voudrais que les Africains, en toute sincérité, appellent la France, toute la communauté internationale, et leur disent, qu'est-ce que vous voulez de notre continent? Dites, peut-être il y a des accords qui ont été conclus, nous allons reviser ces accords-là, et on va essayer de trouver une solution. Sinon, sans cela, il y aura toujours de ce que nous sommes en train de faire. Ce que Goïta est en train de faire là, non, son temps va passer, les Français vont revenir.
J'aimerais.
Oui, bon, moi, je vois pas ça en termes d'occidentaux, en cas de nous dire hein, qu'est-ce qu'ils veulent. Le terrorisme est un phénomène mondial. Hein. Les occidentaux s'y sont frappés, les États-Unis régulièrement aussi frappés, mais ça prend plusieurs formes. C'est des gens qui viennent semer la terreur pour certaines raisons, parfois sans raison valable, et ça s'assimile parfois à une sorte de banditisme, de criminalité. Après, nous, on pense que c'est l'Occident qui a créé le terrorisme dans notre zone. Si on est persuadé, c'est pas à l'Occident de nous donner la solution, puisqu'il ne peut pas créer un problème parce qu'ils ont des intérêts.
Et c'est pour ça que moi, je parle de négociation.
Oui, j'arrive.
Négocions
donc,
avec eux.
Il vaut mieux que nous trouvions des solutions africaines à ce problème. En tout cas, selon les zones, il n'y a pas que la CDAO, il y a la Somalie là qui est régulièrement frappée. Ça n'a rien à voir avec la
CDAO.
Il y a l'Égypte et tout ça. Oui, donc c'est pas la France, les États-Unis, les Occidentaux en général, même eux aussi sont frappés hein, par moment et sous d'autres formes. Maintenant, nous, on est persuadés que ce sont les Occidentaux qui le font. Si tel est le cas, il faut trouver des solutions africaines. Hein, ou sous-régional à ce problème, parce que ben, celui qui crée le problème, je ne le vois pas en train de le régler, à moins qu'il gagne beaucoup plus en le réglant qu'encore le créant. Donc, au-delà de ces rencontres-là, c'est vrai, comme je le disais, chaque pays a sa stratégie, mais il faut des synergies d'action, parce que le phénomène traverse les frontières. Et il y a des ramifications dans plusieurs pays, donc il faut de temps en temps qu'il y ait des concertations. Mais après, je crois qu'il faut revenir à des solutions propres à l'Afrique et aussi éviter aussi de mettre tout le phénomène sur le dos de l'Occident, parce qu'en le faisant, nous pensons que nous ne sommes responsables de rien. Alors que les terroristes sont nos frères et sœurs, ce n'est pas les Blancs hein, qui viennent attaquer les Noirs ici, c'est des nationaux qui ont été recrutés, oui. Donc après tout, même si on pense que les Blancs sont derrière, c'est nous quand même qui nous entretuons. Ce sont nos frères qui tuent leurs frères sur nos territoires. Donc il faut peut-être penser à une solution africaine. Ici, on a fait le choix de mettre en place les CIPLEF pour essayer de prévenir. Ça a marché un temps. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la prévention parce que le phénomène est réel. On peut continuer par prévenir, mais il faut résoudre le problème. Et je crois que toutes les couches devraient pouvoir apporter leur contribution et chercher d'autres solutions qui sont les solutions toutes faites, qui sont appliquées depuis longtemps. Le Mali l'a expérimenté pendant longtemps. Le Nigeria n'en parle même pas et donc on n'a pas encore trouvé de solution.
Francisco, trouver une solution à l'africaine, oui, on est tous d'accord. Mais est-ce que cette solution à l'africaine ne tarde pas? Parce que la lutte continue, ce phénomène continue sur le terrain, des Africains sont tués, il y a nos compatriotes qui sont enlevés. Est-ce que ça ne tarde pas, cette solution africaine?
Vous voyez, le siège de l'UEA, c'est la Chine qui a construit. Le siège de la CDAO, c'est la Chine. Vous voyez, non? Tout dernièrement, avant même, il y a eu cette tentative de G5 Sahel. On a encore fait la manche vers l'Occident pour financer l'équipement. Et tout dernièrement, nos chefs d'État se sont réunis au Ghana, où ils ont dit qu'ils vont faire quoi, constituer une force et autres. Je crois que ça aussi, c'est un discours dans l'air, en l'air, qui ne se concrétise pas. Donc, vous voyez, les gens, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts à défendre, surtout que Firmin dit qu'il faut appeler l'Occident et demander qu'est-ce que vous nous voulez. Mais pour quelqu'un qui veut s'incruster au pouvoir, mourir au pouvoir, il n'a pas besoin d'affronter les Nations Unies. D'accord? Donc, c'est ça, les agendas sont différents. Et on ne peut pas avoir cette synergie d'action qui est souhaitable pour pouvoir combattre le fléau. Donc il faut voir simplement comment on veut financer. On n'arrive pas. Si vous prenez la RDC, le plus grand contingent des Nations Unies, et dans la durée même, c'est où? C'est en RDC. Mais vous voyez, la RDC est déchiquetée, et son voisin rwandais prend ce qu'il veut. Les États-Unis, l'Afrique du Sud également vient prendre sa part. Le problème est sérieux. Le problème est sérieux. Donc, on est déjà trop ancré dedans. C'est-à-dire, quand vous tournez et à gauche, il y a des gens qui sont dans les labos et qui sont en train de réfléchir tous les jours. Firmin l'a dit tout à l'heure. C'est la démocratie qu'on nous a vanter, sachant qu'ils soutiennent les mêmes personnes, mais ils ont envoyé des gens à l'abattoir. Les gens ont cru qu'il y aura démocratie, se sont levés pendant des années, c'est les mêmes régimes qui sont sur place. Et maintenant, quand ils voient qu'il y a une prise de conscience populaire, que même ils déclinent en sentiment anti-Occident, non, c'est une prise de conscience populaire, et donc, c'est le terrorisme qui vient, va nous tenir. Donc, ils ont encore d'autres idées déjà. En temps, il y a la COVID-19 qui est passée. Eux-mêmes, ils s'accusent. D'autres disent que c'est laboratoire. Jusqu'ici, personne n'a pu faire de la lumière là-dessus. Donc, voilà.
Et Firmin
Pascal Ossou, quelle solution africaine voulez-vous? Vous l'aurez jamais?
Non, ça, je suis sérieux.
Non, vous l'aurez. La solution africaine qu'on peut avoir, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Une conférence. Après, nos autorités vont essayer de trouver du boulot à nos jeunes et là, pour qu'ils soient moins manipulables. Ça, c'est une solution africaine. Et aussi, bien former nos militaires, investir beaucoup dans le renseignement, c'est aussi une solution africaine. Mais solution africaine régionale, tout ça, ça n'existera. Ça ne sera jamais efficace. Vous savez qu'il y a le G5 Sahel. le G5 Sahel, on demande aux Africains de contribuer, on demande aux Occidentaux de contribuer. Donc personne ne contribue vraiment. Les Africains ne contribuent vraiment. N'oubliez pas qu'il y a aussi cette force panafricaine, la force multinationale mixte, dont la capitale est N'Djamena, où ça devait contenir 7000 hommes. On demande à chaque État africain de mettre beaucoup d'argent. Ils ne mettent pas beaucoup d'argent. Mais vous voulez parler de qu'est-ce que c'est africain? Il n'y en aura jamais. Francisco, ce qu'il a dit, moi je vais compléter. Quand on parle de l'Union africaine aujourd'hui, le budget de l'Union africaine ne sert qu'à payer les fonctionnaires de l'Union. Alors comment exécuter les autres projets durant toute l'année? Donc il faut tendre la main à la Chine, il faut tendre la main à la France, il faut tendre la main aux Nations Unies, aux États-Unis, ainsi de suite.
Et là, on a eu une union quand même qui n'est presque pas opérationnelle.
Une union qui n'existe pas. Parce que cette union n'a pas de moyens, elle n'a pas d'argent. Je dis, chaque année, l'Union africaine vote son budget. Ce budget ne sert qu'à payer les fonctionnaires de l'Union. Oh, il faut faire tourner l'Union. Il faut faire tourner les projets. Pour tourner les projets, exécuter les projets, il faut dire à la France, donnez-nous un peu d'argent. Donnez-nous un peu aux États-Unis, donnez-nous un peu d'argent. Regardez, n'oubliez pas ce qui vient de se passer aux États-Unis, où on a fait déplacer 45 chefs d'État. Joe Biden a fait déplacer 45 chefs d'État, il ne les a même pas rencontrés individuellement. Après, on leur a dit, on vous donne 55 milliards. Donc, chaque pays, bon, banalement, va avoir un revenu avec 1 milliard de dollars. Et échelonné sur 3 ans. Banalement, ça fait 150 millions, 160 millions de francs, c'est pas par. On va en faire quoi? Donc, juste dire que les Africains ne sont pas encore prêts pour se trouver une petite solution pour lutter contre le terrorisme. Ça là, oublie ça, ne rêvez pas. Moi je ne suis plus dans la rêverie. C'est-à-dire, moi je suis sérieux ce que je dis. C'est-à-dire, l'Afrique n'appartient pas aux Africains. Que les Africains arrivent à avoir cette conception dans leur esprit. Et le jour où on aura cette conception, on saura que il y a quelque chose à faire. Mais pour le moment, l'Afrique ne nous appartient pas. Je dis RDC, 65% des richesses mondiales. Mais la RDC n'appartient pas aux Congolais. Qui rêve. C'est pour cela que Lumumba, lui, ne comprenait rien. Donc, comme il savait parler de gros français, il s'est dit qu'il voulait l'indépendance. Après, on lui a montré que la RDC, c'est pour le roi belge. Vous imaginez, la RDC aujourd'hui, il y a le Rwanda qui est à côté. Est-ce que Paul Kagame, lui, ne veut pas la fin du terrorisme? Oh, il a une rébellion, le M23, et puis il leur dit, allez dans l'est de la RDC, piller toutes les richesses, tuer tous ceux-là que vous pouvez tuer. Maintenant, on va ramasser les richesses. Maintenant, on prend une partie et l'autre partie va au niveau de la communauté internationale. C'est pour cela que vous allez voir les rapports du Rwanda chaque année. On dit le Rwanda exporte tel produit, alors que le Rwanda ne produit pas ces produits-là. Parce qu'on pisse ça au niveau de la RDC et on en fait sien. Donc, les Africains ne sont pas encore prêts pour avoir une vision, pour développer leur continent. Le continent africain, les gens le disent, c'est un continent d'avenir. Et moi, je complète. C'est un continent d'avenir, mais pas pour les Africains, pour les Occidentaux.
Jamais.
Non, je pense qu'il y a des solutions africaines. Hein. Il faut que nos intellectuels réfléchissent un peu. Vous savez que les Chinois étaient pratiquement dans la même situation que nous. Hein. Ils étaient colonisés. Aujourd'hui, ils sont en train d'être la première puissance au monde. Et ce n'est pas par la démocratie, ce n'est pas par le verbe, ce n'est pas le travail. Que les Africains travaillent déjà. Au lieu de demander tout le temps de l'argent, on peut en demander. Les Chinois aussi en ont demandé. Mais on demande en complément. Il faut qu'on se prenne nous-mêmes en charge. À commencer par plusieurs pays qui se font financer pour leurs élections. Ça, c'est le premier acte de souveraineté. Et tout à l'heure, Francisco a parlé de nos sièges et tout ça, offerts par la Chine. Bon, tu sais, des cadeaux, on prend. Mais on pouvait nous-mêmes se les construire. Aujourd'hui, l'Afrique veut mettre en place une force pour lutter contre la CDAO, contre les coups d'État. On pourra également aussi l'orienter sur les actions de synergie contre le terrorisme. C'est vrai qu'il y a toute l'opération... Entre le Ghana, le Ghana, le Burkina, la Côte d'Ivoire, Koundalou, oui, cette opération-là. Mais on peut avancer. Maintenant, il y a des solutions africaines. La dernière solution, le problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il y a le dialogue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle pas encore de dialoguer avec les terroristes, mais le Sénégal l'a fait longtemps avec les rebelles de Casamance. Au Mali, il y a eu assez de rencontres avec les terroristes. Même les Occidentaux, quand il y a des enlèvements de leurs employés au Niger, au Mali, un peu partout, ils négocient pour les libérations. Ça veut dire qu'il y a possibilité de négocier. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'option militaire est mise en avant parce qu'on pense qu'on peut vaincre En même temps, ce qui nous pousse vers cette option-là, nous pousse à acheter des armes, à détourner notre argent qui devait servir à nous développer, à nous armer plutôt et à nous combattre, parce que c'est nos frères. Eux-mêmes, ils arment nos frères et nous, nous armons nos armées. Et c'est eux qui gagnent. Ils vendent doublement, ou en tout cas, ils gagnent tant que cette guerre-là continue. Mais la guerre finira peut-être un jour par les négociations. Peut-être aussi, les négociations, c'est l'arbre par l'arbre, c'est africain. On peut déjà penser à cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des ennemis. Mais toutes les guerres, les rébellions, vous avez vu après les gens s'asseoir et signer des accords. Peut-être, je pense qu'on peut, l'Afrique peut évoluer. Déjà penser à ça, plutôt que de combattre sur le plan social et économique pour régler le problème de pauvreté, c'est vrai. Il faut régler ça militairement, mais en même temps, je crois que ces solutions-là sont plus occidentales. Parce que c'est des gens qui nous vendent des armes pour nous montrer comment attaquer les autres, même tant que nous les soupçonnons, alors que nous les soupçonnons de vendre des armes parfois aussi plus efficaces que celles de nos armées et aux autres. Donc il faut quand même, je pense, que les intellectuels africains, pas à travers des séminaires où on ne se dit rien de sérieux, peut-être il peut y avoir des think tanks, des champs pour réfléchir et commencer. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique aujourd'hui est détournée par cette affaire de terrorisme. Nos pays allaient vers l'industrialisation, vers le développement, mais aujourd'hui, une partie de ce sous-la vente dans l'armement, parce qu'on en a besoin pour nous protéger, et on peut vraiment réfléchir autrement.
Merci beaucoup, Germain. Francisco, alors, c'est vrai que à la une de votre... Nous allons quitter rapidement ce sujet de terrorisme, ou de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et Francisco, à la une de votre journal Tampa Express, vous vous intéressez à l'économie du Togo, où vous titrez « Autopsie de l'économie togolaise, la rhétorique budgétaire à l'épreuve de la faillite de la gouvernance courtisane à l'entame de l'année 2023 ». Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Oui, c'est un travail très fouillé que nous avons fait sur les budgets togolais depuis 2018, où nous avons relevé et beaucoup de choses. Quand vous prenez d'abord le budget est les recettes fiscales, c'est juste les recettes fiscales qui permettent de financer le budget. Quand vous voyez au niveau de la participation des sociétés d'État, à peine 3%, à peine 3% que toutes nos sociétés d'État réunies fournissent pour le budget, sinon le reste du temps, c'est des dettes, sinon soit des dons, des dons-projets, des prêts, des crédits. Vous savez que le Togo est devenu spécialiste pour la levée des bons de trésor sur le marché de l'UEMOA. D'accord. Donc, et vous voyez, à chaque fois, ces budgets-là, on nous dit que c'est le social. Et je vais vous donner, par exemple... un exemple, quand nous prenons par exemple et les chiffres, par exemple, on prend 2023, on nous dit que 49% du budget est consacré au social. En 2022, c'était 46%. En 2021, ce fut 54%. Et puis, bon, et la moitié, qu'on nous dit, la moitié en 2020. Jusqu'en 2019, pratiquement, c'est la même chose. Mais cependant, on cherche les effets, n'est-ce pas, de ce social-là, dans lequel on dit on met de l'argent, mais qu'on ne retrouve pas. Donc, vous voyez, nous avons un budget qui est toujours déficitaire. Et donc, on s'en va chercher l'argent sur le marché régional pour venir financer, disons, la consommation. C'est-à-dire que c'est pour payer comment on l'appelle, les salaires et autres, alors que ce n'est pas ça. Le budget normal doit être investi, l'argent qu'on prend surtout de l'extérieur, c'est-à-dire vous prenez par exemple un crédit bancaire, c'est-à-dire que l'argent que nous cherchons sur le marché monétaire, c'est un prêt que vous êtes parti faire à la banque. Vous allez faire un prêt à la banque et vous prenez pour déposer à la maison, et chaque fois, c'est avec ça que vous financez disons votre popote, la maison, alors que quand on prend, n'est-ce pas, de l'argent comme ça, c'est de l'argent qui doit être investi pour un retour sur investissement. Ça veut dire que avec le temps, vous allez réduire n'est-ce pas, c'est prêt là. Alors que chez nous, c'est que chaque année, on a l'impression qu'on prend plus pour payer les anciens crédits. Et donc, voilà des choses qui se répètent avec les mêmes mots, les mêmes phrases. Donc, voilà, c'est ce que nous avons.
C'est vrai que quand on vote le budget, le citoyen lambda voit toujours le côté social parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que cela va apporter sur mon quotidien. Finalement, le social doit être la priorité.
Oui, en fait, le chef de l'État, ça fait deux mandats qu'il a successivement placés sous le signe du social. Le social, c'est d'aider la société, en tout cas les couches les plus défavorisées, pour qu'elles s'en sortent. Donc c'est ça le social. Le social, c'est pas pour les classes moyennes et les riches, c'est pour les pauvres. Et quand Francisco dit qu'on ne voit rien, je sais pas, peut-être à la maison, dans les plats des gens, l'État ne vient pas servir les gens à la maison, mais quand vous prenez un exemple comme l'inclusion financière au Togo, vous savez qu'avant, pour avoir un prêt, démarrer une activité, il faut passer par les banques et tout ça. Mais avec le FNFI et ses différents produits, les femmes ont commencé avec des 30 000, des 300 000. Aujourd'hui, certaines de ces femmes qui sont restées dans ce programme prennent plus de 6 millions. Et ont de grosses activités, ça c'est une réalité. L'inclusion financière, ça a été un succès quand même au Togo, on ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier. C'est vrai que l'emploi des jeunes, on en a parlé, ça reste encore difficile, mais des projets comme le FAEJ ont pu financer quelques jeunes entrepreneurs, mais le social aussi, c'est également la santé, l'éducation. On a vu l'ambitieux projet des cantines scolaires par exemple, aujourd'hui qui marche et qui a des ambitions importantes et qui permet un taux de scolarisation assez avancé. On a vu l'assurance pour les enfants, school assure un certain nombre de choses. Ça, c'est des réalités, mais c'est pas de l'argent qu'on vient donner. Je vais pas parler de la prise en charge des femmes quand elles sont... Le projet Ouezou, avant lui, a eu Karma et un certain nombre de choses. Ça, c'est des choses qui sont investies dans le social, au niveau de l'ANADEB également. On a vu dans les zones rurales ce qui se fait. Donc, peut-être quand on est en ville, on ne voit pas trop parce qu'en ville, c'est une autre situation. Mais dans les milieux ruraux, dans les milieux, on parlait même de l'eau aussi, par exemple. Donc, c'est des actions qui sont faites, mais qui n'ont pas réglé totalement le problème, parce qu'il y en a énormément, même dans le domaine de l'électrification. Il y a un projet qui permet à des foyers au Togo d'avoir l'électricité gratuitement et de payer par mois et tout ça. Donc, le social est fait, sauf que l'impact n'est pas aussi grand, parce que les problèmes sont énormes, et c'est un travail qu'il faut faire sur plusieurs années. Ça ne reste pas que des chiffres, ça reste des réalités, mais la pauvreté est tellement grande dans nos pays en Afrique qu'il faut faire énormément. Mais après, je crois aussi qu'on engage ou on motive les jeunes à entreprendre, c'est l'entrepreneuriat qui crée les emplois et la richesse, il faut passer par là.
Merci, Jamais. Philippe, est-ce qu'on a l'impression vraiment que l'impact du social est vivace alors dans la société?
Non, vous savez, quand vous voyez tous les projets du gouvernement, quand vous voyez tous les projets, Germain a listé un certain nombre de projets, tout ça là c'est faramineux. Mais Germain a conclu en disant que l'impact, c'est pas encore ça. Moi, je me balade quelquefois les soirs. Et ça, j'aime répéter ça sur les médias. Quand vous allez à Gouin et dans certaines zones, vous voyez qu'il y a de petits restaurants qui sont ouverts. Où on vend de petits sandwichs à 1000 francs, à 1500, comment on les appelle
les
fast food, non, mais l'expression que les filles adorent.
Un bouga,
les charmants, les hamburgers. Oui, c'est-à-dire, il y a des restaurants qui sont ouverts, mais ces restaurants sont moins peuplés. Et quand vous allez dans certains quartiers, il y a des restaurants qui font 6 mois, après ils disparaissent. Et pourquoi? C'est parce que la consommation n'y est pas. Les gens n'ont pas de sous pour consommer. Alors, le problème, c'est à quel niveau? C'est bon, là, moi, je dis, moi, j'aime critiquer les autorités. Je leur dis, mais vous ne pouvez pas parler de croissance. Vous envisagez avoir une croissance peut-être à deux chiffres à l'avenir. Si avec une population qui est pauvre, ça ne peut pas marcher. La croissance, c'est quoi? C'est la consommation, c'est l'investissement et la consommation. Si les gens n'ont pas d'argent, on ne peut pas avoir croissance. C'est pour cela que les gens me reprochent de citer souvent les Occidentaux. Au niveau des Occidentaux, on fait tout pour que tout le monde ait un peu. Même si vous ne travaillez pas, vous avez un peu. Parce qu'avec ça, vous allez dans les supermarchés, vous allez dans les petits restaurants, vous allez dans les magasins, et ça fait tourner l'économie. Et à ce niveau, moi, je demanderai aux autorités de faire un effort pour que tout le monde puisse avoir un peu. Donc, c'est-à-dire, même si vous ne travaillez pas, si c'est 5 000 qu'on va vous donner, comme on l'avait fait nos vies ici, ça, c'est un truc que j'avais applaudi. Si on peut restitutionnaliser nos vies ici, pour que tout le monde ait un peu, donc ça va faire tourner l'économie et la croissance à laquelle on rêve, on l'aura dans ce pays. Et puis l'autre chose, toujours parlant de social, moi vous savez que nous avons un centre de recherche de géopolitique internationale où nous développons le projet Citoyenneté et Paix. Dans la citoyenneté, il y a ce qu'on appelle la solidarité. La solidarité, on dit les Africains sont solidaires, mais je pense que la plupart des gouvernants africains ou des gouvernements africains sont moins solidaires. Parce que la solidarité, c'est quoi? C'est d'aider celui-là qui n'a rien, c'est de l'aider, de lui trouver à manger tous les jours. C'est obligatoire. C'est pour cela que ailleurs, dans les pays occidentaux, c'est-à-dire il y a des restaurants publics, il y a des banques alimentaires, ou des supermarchés, vous n'avez pas d'argent, mais vous rentrez, on vous dit, vous prenez un truc de 100 000 francs ou de 200 000 francs chaque semaine et vous allez manger. Aux États-Unis, par exemple, il y a des églises qui se sont constituées avec l'aide de l'État aussi, où on a construit des restaurants publics à certains niveaux. En France, en Italie, ça existe. Bon, ici, moi, ce que je voudrais, notre rêve ou ce que je souhaiterais, c'est qu'à l'avenir, que nous avons 5 régions, nous ne sommes même pas nombreux, on est 8 millions, c'est rien. On peut construire des restaurants publics dans les 5 régions du Togo où l'État même s'organise avec les églises. Parce que vous savez, on dit dans la Bible, la meilleure religion, c'est d'assister les veuves et les orphelins. La meilleure religion, c'est de faire du bien aux pauvres. Donc que l'État s'organise avec les religieux pour qu'on puisse instituer des banques alimentaires ou des restaurants publics. L'église apporte un peu, l'État aussi apporte un peu et on aide aussi. Pour conclure, moi je voudrais qu'aujourd'hui, moi, qu'à partir de 2023, que quand quelqu'un tombe malade, quand il va à l'hôpital, les premiers soins soient gratuits.
Merci Firmin. Francis, c'est vrai que au-delà alors de cette question économique, vous intéressez aussi à Monsieur Charles Gaffin dans votre journal d'aujourd'hui, bien évidemment. Et vous dites Monsieur Charles Gaffin, le tout puissant PDG des filiales du groupe Bolloré au Togo, devenu simple salarié de MSSC.
Ah oui, d'abord je commence par la rhétorique, disons la métaphore de Germain que j'aime bien. Il dit ça va bien, on investit bien dans le social parce que déjà
plus de la moitié du budget dans le budget, mais quand il chute, c'est que la pauvreté, soit tu me cites ou tu ne me cites pas. J'ai jamais dit
bon, ça. Jamais a listé des projets. Mais à la fin, il a conclu en disant que l'impact.
Après, on doit s'informer, il y a des réalités sur
tout
le terrain.
Fait.
Sauf non, que le trou est profond. Mais il est en train d'être rempli, ça, c'est une réalité.
Il y a l'effort, l'État fait des efforts. Ça, on ne peut pas dire le contraire.
Si c'est au Togo de 2023 que la pauvreté va forcer les populations à devenir amis des djihadistes, je vois que, disons, le social contre lequel on est en train de travailler, le travail n'avance pas. Oui, affaire de Bolloré, hein,
oui, oui, rapidement.
Il vous souvient que le groupe MSC a ravalé les activités de Bolloré dans tous les ports africains, dont le Togo. Donc, il s'est fait que pour le cas du Togo, Monsieur Charles Gaffin, hein, que tout le monde connaît, hein, au port de Lomé, qui faisait la pluie et le beau temps, même à l'époque, hein, quand la concurrence avait commencé avec MSC, hein, pour son nouveau port, il se permettait même de saisir même les navires, c'est-à-dire les bateaux de MSC pour dire que non, que c'est lui qui doit faire la manutention parce que ils ont transporté des conteneurs en conso. Donc, voilà que aujourd'hui, celui-là qu'il combattait hier, il retourne être employé, sinon simple salarié. Mais l'inquiétude est ailleurs, c'est parce que il y avait des pratiques, c'est-à-dire que il avait créé au niveau du groupe Bolloré deux types d'employés. Il y a des employés qui ont des contrats directement avec Bolloré et d'autres qui sont gérés par un cabinet dont les salaires n'évoluent pas, qui sont vraiment sur le don. Aujourd'hui, l'inquiétude, c'est que le fait de l'avoir gardé, est-ce que ce n'est pas une façon de perpétuer la mauvaise pratique, alors que on sait que MSC quand même c'est une société qui paye bien ses agents. Voilà tout ce que nous avons concoté dedans. Sinon, c'est un dossier à suivre parce qu'il y a d'autres séries qui viennent.
C'est un dossier à suivre et nous reviendrons sur ce dossier. Alors, nous avons aussi des invités avec nous. Il y a M. Kwante Waibou. Bonjour, M. Kwante.
Oui, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va.
Vous êtes le secrétaire général adjoint du comité de démence pour l'employabilité des personnes handicapées. Oui. Vous avez un devoir de reconnaissance à l'égard vraiment d'un certain nombre de personnes, surtout par rapport à ce projet que vous avez mené, projet d'employabilité que vous avez mené tout récemment.
Oui, je voudrais d'abord saluer tous les journalistes qui sont sur le plateau.
Oui.
Et c'est un honneur pour nous d'être parmi vous. Et aussi dire un merci à la radio Canal FM qui a accepté de nous recevoir. Et oui, pour répondre à votre question, effectivement, nous avons des remerciements adressés à l'État. Parce que quand nous avons débuté ce projet, et c'était pas évident, mais l'État nous a prêté oreille. Et ce que je veux dire, c'est que lorsque nous avons commencé, c'était en 2021, nous avions mis en place ce comité et c'était à la demande des camarades qui ont des diplômes mais qui n'avaient pas d'emploi. Et après plusieurs rencontres, des discussions, et on a mis en place ce comité.
Oui.
Et c'était en collaboration avec différentes associations pour personnes handicapées, en l'instar de l'ATA, Association Togolaise des Personnes Aveugles, et l'ABA, Action pour le bien-être des aveugles. Donc c'est en collaboration avec ces associations-là que nous travaillons sur ce dossier.
Tout à fait.
Et donc, quand nous avons commencé, nous avions adressé plusieurs courriers, et d'abord à la primature, ensuite à la présidence, et dans différents ministères, et le ministère de la fonction publique, le ministère des enseignements primaire et secondaire, et le ministère des Actions sociales. Et heureusement, en 2021, nous avions été reçus par la primature et qui nous a écoutés. Et par après, bon, il y a eu quelques mois où on n'a pas eu de suite. En 2022, on nous a rappelé. Et après avoir mené d'autres tentatives, et on nous avait reçus, et c'était par le conseiller chargé de l'emploi et de la jeunesse. Et donc, je crois, c'était dans le mois de juillet, on nous avait reçus au ministère de l'Action sociale, sous la demande donc de la primature. Et donc, après discussion, il était donc question de mettre en place une politique d'employabilité pour des personnes handicapées. De
façon... Finalement, est-ce que cette politique a été mise en place et vous avez déjà eu à retrouver le fruit ou l'impact alors de ce projet?
Non, c'est la raison pour laquelle même nous sommes là. Parce que depuis là, le projet n'a pas encore eu de résultats probants. Et nous sommes là donc pour d'abord féliciter l'État pour nous avoir écoutés et l'encourager à faire davantage. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 150 personnes handicapées qui sont des diplômés mais qui n'ont pas d'emploi. Et nous fréquentons dans des situations très difficiles.
Tout à fait.
Vous imaginez quelqu'un qui... Souvent, les personnes handicapées, généralement, viennent de familles pauvres. Et nous fréquentons dans des conditions difficiles. Et tu as le bac, la licence, le master, voire le doctorat. Et tu n'as rien à faire. Et tu retournes à la maison, devenir encore une charge pour les parents. C'est vraiment déplorable. Donc nous sommes
Et c'est quoi le message que vous adressez maintenant à l'État ou au gouvernement?
Oui, le message que nous adressons, c'est que si le président de la République ou s'il y a des gens qui nous écoutent et qui peuvent faire parvenir notre message au chef de l'État, nous souhaiterions qu'on organise un recrutement spécial à l'endroit des personnes handicapées de façon générale. Et comme ça, on pourrait solutionner de façon momentanée le problème. Mais pour la politique, je pense que c'est en cours de résolution et peut-être que ça ne va pas venir très tôt parce que ça va se discuter entre les ministères jusqu'à aller à l'Assemblée, tout ça là. Mm. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui meurent de faim. Mm. Vous voyez, donc c'est pourquoi nous souhaiterons que le chef d'État prenne une décision en fait que un recrutement spécial puisse être organisé à notre endroit.
Le message est passé. Un autre invité, rapidement, c'est M. Alain Barrière-Niawa. M. Alain, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes le directeur technique à l'Or d'Ivoire, maintenance au Togo, et nous savons que c'est cette structure qui s'occupe alors surtout alors de la campagne de collecte ou de pré-collecte alors des déchets dans le Golfe 1. Vous avez prévu même d'ailleurs commencer il y a des jours bien avant, mais je pense que finalement c'est le lundi prochain que cette campagne va débuter.
Oui, c'est dans le courant de la semaine prochaine qu'on commence la campagne d'identification des producteurs de déchets dans la commune du Golfe. Mais en termes de début, on a commencé bien avant. Mm. Présentement, si vous voyez le site, le dépotoir sauvage, les Bocas, nous sommes présentement en train de le traiter. Mm. Nous sommes en train de traiter, d'enlever tous les ordures au niveau de Bocas, et installer un centre de recueil des déchets, bien une infrastructure bien moderne qui va nous permettre de mieux gérer les déchets dans la zone. Donc nous sommes en train d'installer un ensemble d'infrastructures de ce type-là pour permettre de mieux gérer, coordonner et tout ce qui est déchets dans la commune du Golfe 1.
Alors comment cette campagne d'identification se fera sur le terrain?
Non, la campagne, elle est, il y a un organigramme. Il y a des superviseurs, des contrôleurs et des agents de terrain. Le but, c'est quoi? C'est de comprendre avec tous les producteurs de déchets comment ils gèrent leurs déchets et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans l'évacuation des déchets et comment aider à résoudre et intégrer tous ces données qu'on va recueillir dans notre plan, dans notre stratégie générale de gestion des déchets de la commune du Golfe 1.
Alors, finalement, c'est vrai que vous avez eu à faire déjà des réalisations. Hein. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-unes de ces réalisations?
Bon, il faut dire que Ivoire Maintenance, d'abord, est au niveau d'Abidjan, notre siège. Nous avons présentement la collecte des déchets du port autonome d'Abidjan. De l'aéroport international d'Abidjan. Nous traitons Cocody, présentement la zone du président de la République au niveau d'Abidjan. Donc, beaucoup d'espaces stratégiques d'Abidjan nous sont confiés. Comme le troisième pont d'Abidjan, c'est nous qui faisons tout ce qui entretient balayage mécanique et toutes les activités. Et aussi, nous avons une grande partie des entreprises dans la zone industrielle qui nous confient leurs déchets, que ce soit l'enlèvement et le traitement des déchets particuliers. Voilà, donc c'est un peu ça.
Précisément, au niveau de la commune de Golfe 1, comment la démarche se fera, le processus alors de collecte alors de déchets, comment ça se fera?
Bon, au niveau du Golfe 1, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'abord, faut dire que les autorités, le maire Goumando du Golfe 1, et le cabinet Snati, ils ont déjà fait un travail préliminaire. C'est-à-dire le travail qui est mis en place, la zone était subdivisée en six zones. Et la commune est subdivisée en six zones et ils ont affecté des pré-collecteurs dans chaque zone. Donc c'était un peu le maillonnage de la zone. Ben, ça n'a pas été... cette stratégie n'a pas vraiment marché. Donc nous arrivons, parce qu'au niveau de la salubrité, les éléments importants, il faut avoir d'abord l'équipement. C'est l'équipement et il faut avoir la stratégie. Donc, nous venons subdiviser la zone, la commune en quatre grands blocs. Et avec ces blocs, nous préfinançons entièrement tout. Les équipements sont déjà sur Lomé. Parce qu'il y a des équipements en particulier, il y a des voies qui sont... Beaucoup de voies ne sont pas carrossables. Donc, quand vous voyez qu'en termes de précollecte, vous ne pouvez pas envoyer un camion tasseur sur une voie non carrossable. Déjà là, vous réduisez la durée de vie de l'engin. Donc nous avons pris un ensemble d'équipements qui sont adaptés vraiment. Et avec la stratégie, je pense que nous allons réussir à atteindre nos objectifs. L'objectif, c'est d'éliminer d'abord tout ce qui est des dépotoirs sauvages de la commune et puis permettre des enlèvements quotidiens avec une fréquence respectée. Et donc, nous sommes en train de mettre tout le plan, tout le système progressivement.
Monsieur Niawa, vous restez avec nous. Nous allons faire un clin d'œil même à nos annonceurs et nous revenons juste après pour écouter nos auditeurs dans cette émission.
Okay. Merci.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Retour dans cette émission Club de la Presse et vous avez maintenant la parole, vous auditeurs qui nous suivez sur la 93.5, vous avez la parole 22 21 33 114 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous avons débattu d'un certain nombre de sujets dans cette émission ce matin et vous avez alors le droit de discuter, alors de d'intervenir sur l'un ou l'autre sujet. Nous avons parlé surtout alors de cette conférence qui se déroule dans notre pays sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 22 21 33 114. Nous avons le premier auditeur en ligne. Allô. Allô, bonjour. Allô. 22 21 33 114. 22 21 33. Allô.
Allô, allô, bonjour Kana.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Ça va très bien, c'est monsieur Etier.
Monsieur Etier, vous nous appelez de quel quartier?
Allô?
Oui, vous nous appelez de quel quartier?
Oh, je vous appelle d'Agoué.
Agoué, allez-y.
Je veux remercier tous les journalistes et mes voeux de meilleure année pour tout le monde.
Merci.
Et je remercie aussi M. Fulmer, surtout quand il a parlé du volet social. Parce qu'en 2022 ou bien 2023, aucun Togolais ne doit mourir de faim.
Tout à fait.
Ça, ce n'est plus possible. Aucun pays. Il faut que le gouvernement arrive à le faire. Comme il a parlé d'autres pays, moi je veux parler du cas du Brésil, ce que moi je suis parti voir. Et comment ça se passe au Brésil? Il y a des restaurants qu'on appelle Bon Plateau. Là, peut-être tu peux trouver à manger à 100 francs CFA. Est-ce que tu manges à satiété à midi? Le matin, il y a des véhicules qui passent. Moi j'ai ce projet-là, mais c'est le moyen qui manque. Et on fait le pain chaud, le café chaud, pour tous ceux qui sont dans la rue. Donc, nous, on court. Quand on voit le véhicule, attendre immigré, on court pour aller au moins manger le petit déjeuner du matin. Maintenant, à midi, on se dirige vers les bons plateaux, on vous fait les cartes, et vous allez manger. Maintenant, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Dans tous les écoles, les quartiers, il y a des centres sociaux où, si tu n'as pas à manger, tu vas.
Allô? Allô, nous avons du mal à vous écouter, monsieur Etier.
Oui, allô?
Allô, bonjour.
Ouais, bonjour.
Oui, s'il vous plaît, le nom c'est...
Ah, le nom c'est l'évangéliste Senghor. Hein?
L'évangéliste Senghor.
Je salue tout le plateau.
Oui.
Et je vous souhaite la santé surtout.
Merci.
Et qu'on s'approche plus aux donateurs.
Merci.
Bon, moi, je voudrais quand même parler de, c'est-à-dire que les personnes, les handicapés.
Oui.
Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, les journalistes ou pas. Au Niger, ici, tous les handicapés, après leur diplôme ou même l'apprentissage, ils sont admis directement à l'emploi. Sans le concours, hein. C'est-à-dire que quand la personne, comme l'a dit mon frère sur le plateau, là, c'est-à-dire que la personne a eu son diplôme, la licence, quoi, quelque chose comme ça, automatiquement, ils sont engagés à travailler. Je ne suis pas du Niger à côté, un pays pauvre par rapport au Togo. Donc, je lance un appel à Bawara, c'est lui qui est le ministre de la fonction publique, s'il vous plaît, de faire comme les autres pays. Ou bien nous allons dire que c'est le Niger, le Togo, c'est le Togo. Non, dans la vie, il faut impacter, il faut faire du bien. C'est ce que j'ai quand même à vous dire. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Évangéliste Senghor. 22 21 33 114. 22 21 33 114. 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, parlez un peu plus fort, Basile.
Oui, et comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Oui, ça va. Bon, moi, est-ce que vous m'écoutez?
Oui, oui, on vous écoute. Allez-y, Basile.
Salut les invités.
Oui, salut.
C'est aux deux, il y a Firmé et Germain. Bon, eux qui a double temps, nos gouvernants, mais ils n'arrivent pas à voir là où le problème se trouve au Togo. C'est le fait que Togo, la masse salariale, c'est néant. Mais ils ne veulent pas voir ça quand ils viennent. Moi, je ne comprends pas. Hein. Mais dans toute la sous-région, c'est ici qu'on ne peut pas les fonctionner comme cela se doit. Mais pourquoi ils ne veulent pas voir ce que tout le monde voit? Mais c'est ça qui m'étonne, quoi. Bon.
Basile.
Merci pour votre émission.
Basile, merci à toi aussi. Chacun de nous a sa manière de voir les choses. Je pense que c'est ça aussi la voix de la démocratie. 22-21-33-74. Allô.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Salut, plateau.
Oui, salut.
C'est monsieur Donné.
Monsieur
Donné.
Donné. Vous nous appelez de quel quartier?
Ma question à monsieur Pouli.
Oui.
Tous les sommets qui sont organisés au Togo, là, et qu'est-ce que le Togo gagne dedans?
Qu'est-ce que le Togo gagne?
Nous, en tant que Togolais, qu'est-ce que nous gagnons dedans? Moi, j'ai une question.
Rapidement.
Moi, je crois qu'il faut que le Togo fasse beaucoup d'attention sur la question du terrorisme. Là. Parce que les terroristes, là, ils savent là où ils vont aller. Eux aussi, question à monsieur et Fimé. Il a, comme il fait les recherches, il s'est renseigné sur pourquoi, jusqu'alors, le terrorisme n'a pas frappé le Ghana et pourquoi le Togo, comme il fait des recherches là. Et je vous invite aussi à parler au.
Non, je ne vous ai pas compris. Pourquoi les terroristes, vous dites.
N'ont pas encore frappé le Ghana.
Le Ghana. Ah oui, ça se fait déjà.
Je vous invite aussi à parler aussi sur le problème des microfinances au Togo, parce que ça devient un cancer pour les Togolais. Les microfinances aussi. Bonne émission.
Merci beaucoup, Donné. 22-21-33-74. Allô.
Oui, allô.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Monsieur
Nyamavo.
Ah, Nyamavo, voilà.
Oui.
Allez-y.
Oui, beaucoup d'auditeurs s'interrogent sur cette intervention de certains de nos amis, c'est nos frères. Hein. On apprend. Ce qu'ils disent aussi, ça nous culture. Hein? Donc, on a compris, surtout avec Timig, on sait qu'il y a la difficulté au niveau des journalistes. C'est de bon ton de se positionner comme ça. Vous voyez, un journaliste disait que les enseignants au Togo sont payés le plus bas salaire, c'est 700 000, 3 millions. Je suis d'accord, je confirme. Mais il a dit ça comme ça, sans signifier que c'est annuel. A divisé par 12 mois. Est-ce que vous voyez? Mais dans l'opinion, il a dit ça que bon, il a les informations qu'il n'y a pas plus bas salaire à cette année. Donc, cette façon de parler, c'est pour adouber le gouvernement. Et je cite, quelqu'un le disait aussi que l'Afrique a de l'avenir, mais pour les Occidentaux. Et il est désolé, il ne veut pas se gêner encore, il reste. Il attend, les législateurs n'ont qu'à venir prendre l'Afrique. C'est l'Africain qui trahit toujours son prochain. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont poursuivi les esclaves pour les amener en Amérique. Ce sont nos propres frères qui les ont attrapés. Et ça continue. Nous allons continuer par nous livrer aux Occidentaux en tenant ces propos. Je suis désolé. Et au niveau des djihadistes, quelqu'un l'a dit, que si aujourd'hui on parle du djihadisme, ça a touché le Togo, ça veut dire que le mandat social ne décolle pas. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Nyamavo. 22-21-33-114. Allô.
Allô.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, s'il vous plaît. Le nom, c'est...
C'est comme là.
Pardon?
Comme là.
Ah, comme là. Vous nous appelez de d'où, là?
Je ne savais plus, moi, sur le plateau.
Oui, vous nous appelez de quel quartier?
Je suis à Zanguera.
À Zanguera, ok, comme là, allez-y.
Oui. Ok, je voulais aborder le sujet des djihadistes. s'il vous plaît, j'aimerais demander aux chefs d'État de tous les pays africains que pour éradiquer au djihadisme plutôt, il serait mieux de créer des emplois. Même pas d'aller se jeter sur les jeunes disant, soit disant qu'on les recrute pour combattre le djihadisme. Si les djihadistes font partie de ceux qu'on recrute, est-ce qu'ils vont savoir?
Allô?
Est-ce qu'ils vont savoir? Oui, je demande si, est-ce qu'ils peuvent savoir s'il y a des djihadistes parmi les recrutés?
Là, nous n'avons pas la question, dans la réponse.
Donc, vaut mieux, ils n'ont qu'à créer des emplois pour que les jeunes travaillent comme ça, afin de djihadistes va disparaître.
Merci.
C'est ce que j'ai à dire.
Merci beaucoup, Comblan. 22-21-33-114. Nous allons prendre le dernier auditeur. 22-21-33-114. 22-21-33-114. 91-36-63-75. 91-36-63-75. 22-21-33-114. Le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour? Allô, bonjour?
Oui, bonjour, chef.
Oui, c'est qui, s'il vous plaît?
Oui, c'est Sylvain.
Oui, Sylvain, allez-y.
Oui, effectivement, si on veut aller de conférence en conférence pour lutter contre les guerres, on va toujours rester dans cette logique. Il faut faire manger un peuple qui a faim. Il faut des projets pilotés par des hommes de Dieu. Comme cette minorité pieuse, on n'a plus de confiance en elle. Il faut piloter des projets à travers des hommes de Dieu. Et on verra. Si pour aller de conférence en conférence, on ne ferait que du dilatoire. Bon, merci.
Merci beaucoup, Sylvain.
Si un bidon descend à 1 million, il serait clair.
C'est bien, merci beaucoup. Oui, allô? Oui, madame, ici.
Voilà.
Oui, allez-y.
Je vais parler de végétation suivie. Il y a terrible comme un cheveu dans la soupe. Mais je pense que le précédent a parlé de djihadistes. Bon, il faut affirmer, quoi, pour éviter ce truc-là. Il faut que les Africains, les dirigeants africains, apprennent à terrir. À affirmer plutôt, à la tête des États. La même personne ne peut pas diriger un pays durant 40, 30, 50, 60 ans, sans opprimer. Et puis les gens excédés, c'est là qu'ils prennent la forme de la violence pour se faire entendre. Il faut que les gens affirment. Et puis, moi, je vais demander à Firmin, est-ce qu'il comprend pourquoi les dirigeants du pays là ne pensent pas à affirmer, c'est-à-dire qu'ils ne veulent jamais affirmer. Quand on fait ça, là, le pays est détruit, le pays est dans une précarité ambiante, le pays est fatigué, eux-mêmes, ils sont fatigués de régner durant 60 ans sur un peuple. Ils sont fatigués eux-mêmes, visiblement. Et ils ont fatigué le pays. Il faut qu'ils apprennent à alterner, quoi. Vraiment.
Oui.
Merci.
Merci beaucoup, madame Essie. Votre message est passé. Alors, nous revenons au plateau ici. Francisco, vous avez écouté les uns et les autres réagir sur l'un ou l'autre sujet débattu ici au Club de la Presse de ce vendredi. Quel est votre commentaire?
Et mon commentaire, c'est par rapport à nos frères non-voyants. Je profite de l'occasion pour adresser une salutation à Eladja Ibrahim Asmanou, le président de ABEA. Et quand si je m'adresse comme ça, je le fais, c'est parce que c'était eux les premiers, pratiquement, groupe de non-voyants sortis de l'université de Lomé avec une maîtrise. Et ils étaient partis en une délégation, audience chez le général Gnassingbé et Yadema. Quand ils sont rentrés chez lui, et Yadema les a vus, ah bon, vous êtes des non-voyants, vous avez fait l'université jusqu'à avoir la maîtrise, oui. Le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, a été le même jour. C'est-à-dire qu'ils étaient là, à côté, conviés, et dit, donner l'heure du travail. Et c'est comme ça. Et tous, ils ont trouvé du travail. Je ne sais pas si vous comprenez.
Oui.
C'est-à-dire que le Togo, les gens ont fait autour de Yadema, les gens ont fait avec Yadema, mais ils n'ont pas gardé grande chose. Les non-voyants, là, on ne peut plus les laisser dans ce statut. C'est ce que l'évangéliste vient de dire. Mm. Qu'on doit ouvrir une voie, parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux à l'université. Il a dit 100 et quelques sans emploi. Mm. Vous voulez qu'ils deviennent quoi? La fonction publique, l'État a l'obligation du social. C'est ça qu'on dit, le social. Ce n'est pas aller faire des discours social, non. Votre leadership, vous devez le prouver. Tous ceux qui ont les prix leadership, vous devez le prouver à travers ces gens-là, hein, qui ils sont pas en train de demander de l'aumône. C'est parce que l'horizon du pays est fermé. Sinon, ils n'ont pas besoin de venir et de dire que non. Voilà. Mais et je donne l'exemple. Voilà ce que Yadema avait fait pour les premières promotions. Mmh. Et ça doit continuer, ça ne doit pas s'arrêter. Et donc, l'invitation est lancée au Premier ministre, au ministre de la fonction publique. Ils doivent proposer. Mmh. Ils doivent vous proposer. D'accord ? Et également au chef de l'État pour qu'une solution rapide soit trouvée à nos frères. Et c'est des gens intelligents. Quand vous faites les évaluations, ils écrivent en braille, on traduit, et c'est braille. On traduit, et quand vous corrigez, vous sentez que les gens, ils ont du savoir, ils ont la connaissance, ils en ont à donner. Donc, donnez-leur du travail.
Merci beaucoup, Francisco.
Oui, je reste sur les handicapés pour dire aussi que c'est pas facile d'étudier quand on a un handicap, donc il faut les encourager. Mais en même temps, l'espoir n'est pas permis. On a un député non-voyant.
Voilà,
il faut le rappeler. Et on fait la promotion des femmes. Ça serait bien aussi qu'un handicapé aille, pourquoi pas, au gouvernement ou aux sphères de l'administration.
Tout à fait.
Pour motiver tous ceux qui ont pu fournir des efforts avec leur handicap quand même pour avoir un diplôme, une qualification. Donc j'espère que leur passage ici va faire bouger les lignes pour qu'une solution soit trouvée.
Fémé ?
Moi, je suis dans cette dynamique. Bravo à nos frères handicapés pour tous les efforts. Ils se battent jusqu'à avoir des diplômes. Je pense que c'est pas facile. Donc, bravo et que Dieu bénisse. Maintenant, je vais juste ajouter quelque chose pour celui-là. C'est Basile qui nous a dit que nous adoubons le gouvernement. C'est aussi sa manière de voir les choses. Vous l'avez dit, c'est la démocratie. Mais que les gens n'oublient pas que, vous savez, le Togo est le pays où la nourriture est un peu moins chère. Dans la sous-région, quand vous allez au Burkina, moi je n'ai pas encore voyagé, mais quand vous allez au Burkina Faso, je suis une fois allé, quand vous allez au Bénin, vous comparez nos petites nourritures, ici tu peux manger à 75, 100 francs, tu peux manger et de rassasier. On parle de la masse salariale, bien sûr, on n'est pas chèrement payé, mais je voudrais aussi faire relever et faire observer à tous ceux qui nous écoutent que, vous savez, les ministres sont trop pauvrement payés au Togo. Les députés sont trop pauvrement payés au Togo. Moi, je souhaiterais qu'on augmente même le salaire des ministres, parce que quand vous voyez les sollicitations, vous voyez les sollicitations au niveau des députés, que vous avez un député qui a peut-être 1 million, 2 millions, on va faire quoi avec des ministres qui n'ont que 2 millions, 3 millions. Dans des pays où on envisage d'avoir une croissance forte, il faut faire augmenter les salaires à tous les niveaux. Merci.
Merci beaucoup, monsieur. On reviendra à vous pour le 4 ans de fin d'émission. Et voilà, monsieur Pointé, Waibou, rapidement, votre mot de la fin.
Oui, donc je voudrais réitérer notre appel. Et encore une fois, le chef de l'État, c'est le père de la nation.
Tout à fait.
Nous sollicitons vraiment son aide pour qu'il fasse quelque chose à notre endroit. Et je voudrais, si vous permettez, donner les contacts. Si,
voilà, vous pouvez rapidement les donner.
Il y a le 91 35 57 56. Et puis il y a le 91 87 27 22.
27-22. Merci beaucoup. Alain Barrière, Niawa, et votre mot à l'endroit surtout alors des populations du Golfe 1 pour cette campagne alors d'identification.
Je voudrais dire aux populations que la mairie du Golfe 1 a décidé de faire un travail vraiment profond d'enlèvement des ordures et de gestion professionnelle des ordures.
Oui.
Et c'est en marche. nous avons commencé. La campagne d'identification des producteurs et déchets va se poursuivre dans la semaine prochaine. Aujourd'hui, les populations peuvent déjà constater tous les sites de dépotoirs sauvages ont commencé à être enlevés et ils seront aménagés. Donc, on veut rassurer tout le monde et que la stratégie qu'on met en place, on va y arriver jusqu'au bout et on va atteindre des résultats.
Et là, vous demandez la collaboration de la population aussi.
On demande la collaboration de la population, non seulement pour accueillir les agents d'identification et aussi pour ne plus déverser les ordures dans les endroits et qui ne sont pas adaptés à cela.
Merci beaucoup. Francisco, carton de fin d'émission rapidement.
Oui, le carton s'est affirmé qu'il voudrait qu'avec un SMIC de 52 500, qu'on augmente encore les rémunérations des ministres qui ont déjà leurs millions. Ils ont les voitures de fonction, ils ont des carburants, ils ont des caisses noires, ils ont des budgets, choses. Écoutez, vous voyez comment les gens se métamorphosent quand ils viennent au gouvernement? C'est parce qu'il y a l'argent. D'accord.
On merci beaucoup, Francisco. Carton d'émission, jamais.
Carton ouvert à tous les confrères journalistes. Oui. On a parlé de tout le monde des salaires. Que nous sommes les plus mal payés au Togo.
Oui.
Ah, la presse plus mal payée au Togo. Dans le prolongement donc, de nos amis non-voyants et handicapés, déjà, il y a deux mois, le chef de l'État avait offert un orchestre aux Happy Brothers, qui sont des non-voyants musiciens. On espère que les cris de cœur donc, de ceux qui sont avec nous dans cette émission sera entendu par le président.
Merci, Jamère. Rapidement,
voilà, fin d'émission. Oui, carton vert à nos frères non-voyants et à nos FDS qui se battent pour la sécurité du pays et surtout à nos FDS qui sont au nord, qui luttent contre le terrorisme.
Merci que Dieu les bénisse. Merci beaucoup, Firmin, d'être passé dans cette émission. Francisco, merci. Merci à Germain Pouli d'être passé aussi dans cette émission. Les amis invités, merci à vous aussi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ça fait plaisir. Et vous allez retrouver ça si nous sentez Gaou le lundi prochain pour un nouveau numéro du Club de la Presse. On se dit à très bientôt.
Canal FM.